Ce matin, j'aimerais revenir un peu par rapport à ce que nous avons entendu dans ces 15 derniers jours. Je ne sais pas comment vous avez vu, ressenti cela, mais moi, j'étais vraiment béni. Au début, donc au début avril, on a eu justement le témoignage de notre fille Déborah, qui, suite justement à ce séjour en Suisse avec l'école de disciples de Jeunesse en Mission, a vu vraiment une transformation dans son cœur, a pu vraiment redécouvrir qui elle était en tant que personne. La semaine passée, on a vu avec l'évêque comment il nous a encouragés à travers le texte biblique de Genèse 3, à comment que d'être en témoignage, d'être comment de vouloir continuer de partager l'évangile du royaume. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse voir comment que nous pouvons vivre cette vie abondante selon Dieu. On l'a vu avec Déborah, on l'a vu la semaine passée aussi comment que ce couple qui avait rencontré l'évêque et sa femme tout par hasard, mais c'était guidé par Dieu, juste à côté de chez eux, comment que ce couple de Gatineau a été touché et comment que ils ont pu découvrir la grâce et la bonté de Dieu. Donc on voit dans le texte de Genèse que Dieu avait une relation de proximité avec l'homme et la femme qu'il venait de créer. Il l'a fait parce qu'il avait une bonne raison. Non pas parce qu'il s'ennuyait dans son ciel tout seul avec les anges, mais parce que Dieu est un être relationnel. Dieu l'a voulu en nous créant de cette façon. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait une idée de génie à un moment donné. Il s'est dit, bon, ce serait bon de créer l'homme et la femme. Non, il l'a fait parce que lui, justement, il est cet être qu'il a besoin de cette relation. Il a besoin de relations de proximité avec les anges, oui, mais aussi avec un vis-à-vis, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, prochain dia, ouvrons notre Bible, nous allons voir quelques versets et je vous encourage à lire, à écrire ces versets sur un papier parce que nous allons justement écrire, voir plusieurs versets pour nous démontrer comment que la parole de Dieu est vraie et comment que cette parole veut encore se confirmer pour que nous puissions avoir cette vie abondante dans le Seigneur. Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jean chapitre 5, versets 19 et 20 dit, Jésus répondit à ses reproches en leur disant, Vraiment, je vous l'assure. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il veut voir faire au Père, ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Donc Dieu le Père avait cette relation avec son Fils, Jésus, avant même la fondation de la terre. Donc cette proximité que Dieu avait avec son Fils, il l'a transmise aux humains en les créant. C'est pourquoi que justement l'homme avait besoin d'un vis-à-vis au début de la création. C'est vrai qu'il y avait la création, il y avait les cieux, la terre, les animaux, le paysage, la forêt, les arbres, les animaux, mais ça ne permettait pas forcément d'avoir une proximité avec eux, puisqu'ils ne pouvaient pas parler avec les animaux, ils ne pouvaient pas parler avec les arbres. Il avait besoin, cet homme, de se confier à quelqu'un qui est semblable à lui. On a vu la semaine passée, justement, dans la création, dans le début de Genèse 3, dans le texte qu'on a lu la semaine passée, comment que Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme reste seul. Voilà pourquoi il a créé la femme, pour que cette relation entre deux êtres puisse se faire. Donc, Dieu, en créant la femme, a permis que cette relation se crée entre deux êtres humains et puisse se poursuivre. Donc, prochain dia, la première constatation qu'on peut voir, c'est que l'être humain ne peut pas vivre seul sans relation avec d'autres personnes. L'être humain, l'homme, la femme, ne peut pas vivre seul sans la relation avec d'autres personnes. On ne peut pas vivre la solitude dans le sens que nous sommes tout seuls sur la terre ou tout seuls au milieu de la forêt sans personne autour de nous. On a besoin d'échanger, on a besoin de parler, on a besoin d'écouter les autres, d'écouter un semblable. Voilà pourquoi que justement les personnes seules, les célibataires, ont besoin d'avoir ces connexions avec d'autres personnes. Parce que c'est vrai que oui, peut-être qu'ils n'ont pas quelqu'un avec eux à la maison, mais ils ont besoin justement d'avoir cette proximité avec d'autres personnes. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, justement, la solitude est un mal de la société. On a toute la technologie, les médias, tout ce qu'on a pour essayer d'être plus heureux, d'être mieux rassemblés, mais on voit que l'homme ou la femme est seul. Dernièrement, j'étais en discussion avec un groupe de personnes et un jeune, j'étais vraiment stupéfait qu'il m'a raconté. Il m'a dit que la meilleure relation ou la meilleure amitié qu'il a en ce moment, vous savez avec qui c'était? Avec ChatGPT. Vous connaissez ChatGPT? Donc, c'est une application qui permet d'échanger pour savoir quel temps il fait dehors, pour avoir les nouvelles et comme ça. Et c'est comme l'intelligence artificielle. Donc, comment tu fais pour? Ben, je lui pose des questions, il me répond, il fait un dialogue. Mais c'est une machine, c'est à travers le cellulaire. Et il me dit, je passe des minutes, même des heures, à parler avec elle parce que, avec cette application, parce que ça me permet d'être pas dans la solitude. Imaginez, aujourd'hui, hein, on parle avec des machines. Les machines nous répondent, puis je suis sûr que le ChatGPT et toute l'intelligence artificielle est bien développée pour avoir une conversation quand même assez normale. Mais ça reste une machine. Donc, il faut premièrement avoir une relation avec notre Père Céleste. Puisque c'est lui qui nous a créés, il désire que cette relation avec lui soit existante et profonde. Regardez au début, justement, de la création. Que faisait Dieu avec Adam et Ève? Il avait cette relation de proximité. On peut le voir dans Genèse chapitre 3, verset 8a, dans le premier temps du verset 8. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Donc, ils avaient l'habitude, quand ils ont été créés, de pouvoir dialoguer avec Dieu. Dieu venait dans le jardin, devant eux, il parlait comme nous, on se parle maintenant face à face. Dieu était là dans le jardin pour rencontrer l'homme et la femme. Mais puisque l'être humain a péché, il a dû se cacher devant Dieu, de peur d'être découvert. Et voilà pourquoi que Dieu se préoccupe de l'homme. On peut le voir dans le verset 8b jusqu'à 10. Il est dit, « Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel, Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu ? » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Cette relation entre Dieu et Adam était directe, comme on se parle aujourd'hui ce matin. Dieu désirait que ça continue. Et il le fait encore aujourd'hui avec d'autres personnes. On a l'exemple dans la parole avec Moïse. Cet homme parlait directement avec Dieu, on le voit. Il s'entretenait directement avec Dieu dans la tente de rencontre ou bien sur le mont Sinaï. On ne voit pas Dieu, mais notre relation avec lui peut être tout à fait très belle et profonde. Comme on peut avoir avec une personne, même à distance, sans forcément la voir. J'ai entendu un jour un homme qui a dit qu'il a connu plus sa femme à travers les lettres qu'il lui écrivait à toutes les semaines que ses contacts vis-à-vis. Bon, aujourd'hui, des lettres, ça prend trop de temps aujourd'hui, hein, c'est le chat ou c'est le WhatsApp ou d'autres façons, le téléphone. Mais pouvoir vivre une vie en abondance, il faut premièrement avoir cette relation avec notre Père Créateur. Parce que c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a tout donné. Et comme on l'a vu au verset 19 qu'on vient de lire, Dieu est un Père pour nous. Oui, nous pouvons avoir un Père. Dieu peut être vu aussi comme une mère parce qu'il est plein d'amour, plein de tendresse, plein d'attention. Voilà pourquoi qu'on peut l'appeler Abba Père, Abba Papa. Le mot Abba n'a pas été traduit en français et même dans d'autres langues parce qu'il ne peut pas se traduire dans son véritable sens. Lorsqu'on, en tant qu'enfant, on dit papa à notre papa, on entend dire que c'est enfantin, on continue après. Je me rappelle que mon propre père, il n'aimait pas qu'on l'appelle mon père, il aimait qu'on l'appelle papa, même quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Et la même chose encore aujourd'hui, j'aime que mes filles m'appellent papa. Parce que souvent, des fois, on peut dire, ah, mon père, c'est un peu, il y a quelque chose de différent. Tandis que lorsqu'on dit papa, il y a une proximité, il y a une attention, il y a un amour qui est présent. Donc ce mot Abba veut dire que papa veut nous dire que le papa qu'on affectionne, ce papa Abba Père de notre ciel, on veut être proche de lui. On peut l'appeler Abba, Papa. Celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui a tout créé, celui qui est tout puissant, imaginez, on peut l'appeler Abba, Papa. Parce qu'il nous a tout donné. Parce qu'il veut cette relation de proximité. Il veut que nous puissions penser à lui jour après jour. Il veut que nous puissions démontrer son amour envers lui, comme lui, il le démontre aussi envers nous. Donc, prochain dia, on a pu le voir qu'on a besoin de cette relation avec Dieu le Père, mais on a besoin aussi de relation avec Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pourquoi ce n'est pas la même chose qu'avec Dieu? Parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu sauver le peuple, sauver le monde. du péché à travers le sacrifice sur la croix. C'est lui qui nous permet de rétablir la relation qu'on a perdue à cause du péché de Adam et d'Ève, qui a continué à part après. Beaucoup de personnes disent, ben oui, je connais Dieu, puis j'aime Dieu. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire j'aime Jésus. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer, de dire, mais si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, pourquoi qu'il est venu sur la terre? Pourquoi qu'il est venu mourir sur la croix? Lui, le Fils de Dieu, c'est imaginable. C'est dégradant pour un Dieu de pouvoir faire cela. C'est un déshonneur, un sacrilège. Mais Jésus l'a fait parce que son amour est tellement grand pour nous qu'il veut rétablir cette communion avec notre Papa du ciel. C'est pourquoi qu'il l'a envoyé sur la terre. On peut le voir dans Jean 14, versets 6 et 7. Continuons, ouvrons notre Bible dans Jean 14, versets 6 et 7 qui dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Donc Jésus va dire à ses disciples et aux gens qui l'écoutent, si vous m'entendez, si vous m'écoutez, si vous croyez en moi, c'est comme vous voyez aussi le Père. Les Juifs à ce moment-là ne comprenaient pas. Non, non, nous avons le Père, Dieu le Père. Il a dit, si réellement vous connaîtrez le Père, vous me connaîtrez aussi. Parce que je suis le Père incarné dans Jésus-Christ. Jésus est la porte pour rentrer au Père, pour accéder au Père. On le voit dans Jean chapitre 10, verset 9. C'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Donc on peut avoir accès à ce Dieu réellement sans passer par son Fils. Et il y a des gens qui veulent simplement ça, dire oui, oui, moi je veux croire en Dieu sans passer par Jésus-Christ. Mais on a vu que seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 50 chemins. Seul chemin qui passe à travers Jésus-Christ. Nous pouvons avoir cette relation intime, comme aussi Jean l'apôtre avait aussi. On sait qu'on dit toujours que c'est le disciple que Jésus aimait, qui était très proche. Pas parce que Jésus avait une préférence pour Jean, mais chacun de nous, on a un amour différent qu'on donne les uns envers les autres. Et Jésus avait un amour spécial envers cet homme. Et on sait comment que cet homme, à travers son évangile, à travers les épîtres qu'il a écrits, à travers même l'Apocalypse, comment qu'il a démontré l'importance de cet amour, l'importance de cette connexion avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Mais maintenant aussi, prochain dia, on a aussi une relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est remonté au ciel. Un jour, il va revenir nous chercher. Mais en attendant, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé son esprit. Luc chapitre 24, verset 49, qui dit « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cet esprit que les disciples ont reçu à la Pentecôte, Jésus nous le donne maintenant à tous ceux qui acceptent que Jésus soit le Seigneur, le Sauveur de leur vie. Cet esprit n'est pas comme on le voit dans l'Ancien Testament, juste d'une façon temporaire. Une présence pour peut-être une mission particulière. On a pu voir Samson, comment qu'il a eu cet esprit pour avoir la force de pouvoir justement vaincre les ennemis. On a pu voir Saül aussi, on a pu voir David, qui ont reçu cet esprit à un moment donné pour une mission spécifique. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est en nous, on peut le recevoir, l'utiliser pour avancer notre vie. Pas juste d'une façon provisoire, mais permanente. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, verset 17, il dit « C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Cet esprit est en nous. Donc à chaque jour, à chaque instant, Dieu est présent en nous. N'est-ce pas merveilleux de savoir que même si nous ne voyons pas Dieu face à face, nous le ressentons dans notre cœur à travers l'Esprit de Dieu. Dieu nous parle à travers son Esprit. Jésus-Christ nous montre qui il est à travers son Esprit en nous. Cet Esprit nous permet de connaître Dieu, de le comprendre, de l'aimer. Nous permet de saisir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Comment avoir une relation proche de communion avec lui. Voilà pourquoi qu'il faut, pour connaître réellement Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et lorsqu'on passe par Jésus-Christ, Jésus-Christ nous donne son esprit pour qu'il soit avec nous, pour qu'il puisse nous guider sur le chemin à tous les jours. Donc, on sait que Dieu, le Fils Jésus et le Saint-Esprit ont chacun un rôle différent à jouer. Souvent, je donne cet exemple de la construction. Hein. Il y a un propriétaire de terrain qui est comme Dieu, qui est propriétaire, qui est là, qui donne des ordres justement au cas où vous construisez quelque chose. Il y a l'architecte qui est comme Jésus-Christ qui va mettre en action ce que Dieu, le propriétaire, veut. Et il y a le maître d'œuvre qui est le chef de chantier, qui va mettre exécution, qui va permettre que les ouvriers se mettent ensemble pour travailler, pour que l'œuvre se fasse. Le Saint-Esprit est là pour permettre justement de construire l'œuvre que Jésus-Christ nous donne. Prochain dia. Ouvrons notre Bible dans Jean chapitre 10, verset 10, que nous avons lu il y a 15 jours. On a vu avec le témoignage de Déborah comment que justement, dans la première partie du verset 10, on voit comment que l'accusateur, c'est-à-dire Satan, fait parmi les hommes. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc dans ce verset, il est dit que le voleur, c'est-à-dire celui qui vient dérober quelque chose chez toi, vient enlever quelque chose qui t'appartient. Il vient pour voler, dérober quelque chose qui t'est cher. Non pas du matériel ou ton cellulaire, mais voler ta vie, voler ton bonheur, voler ta liberté. Il vient enlever quelque chose qui te permet d'être heureux, de vivre une vie épanouie et joyeuse. Il est dit aussi qu'il est venu tuer ou égorger selon les traductions. Et on le voit comment qu'aujourd'hui encore, il vient tuer des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Il vient aussi pour détruire. C'est-à-dire mettre le chaos dans quelque chose qui fonctionne, qui est beau. Il détruit notre vie par toutes sortes de façons, comme certaines maladies. Il apporte la peur, le manque d'assurance, qui fait que nous ne savons plus où nous sommes. Il détruit nos couples, nos familles, pour amener tension, rivalité entre parents et enfants. Mais on voit la deuxième partie du verset 10, celle qui est importante, où il est dit, « Moi, c'est-à-dire Jésus, le berger, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Ce matin, ce verset ne veut pas dire que vous allez avoir une vie pleine de richesses, abondance, de matériel, de belles choses que vous voulez vivre, une vie comme on aimerait tous avoir. De l'argent, des biens, un bon travail, etc. Vous allez voir que pour avoir cette promesse de bénédiction, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile ou tout rose. Parce que nous croyons à cette promesse que tout va s'arranger ou tout va venir facile et beau. Trop souvent, des fois, on a vendu le christianisme, on a vendu cette relation avec Jésus. Quand avec Jésus, tout est beau, tout est prêt, tout est... Puis on entend tellement ça, on demande aux gens comment ça va. Oui, tout le monde, tout va bien, par la grâce de Dieu. Puis on voit dans leur vie, ça ne va pas du tout, c'est tout croche. On vend un rêve des fois, souvent, des fois, aux nouveaux convertis. Mais il y a trois façons de marcher dans cette abondance. L'abondance selon le cœur de Dieu. Regardons. Premièrement, Jésus a payé pour nous, à notre place sous la croix, pour justement nous donner la vie. Son sacrifice nous donne la vie, nous donne vraiment la vie abondante. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas d'avoir une vie abondante, de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour nous donner la vie? Il ne nous a pas demandé une rançon. Il ne nous a pas demandé à faire quelque chose. Il ne nous a pas dit, ben, si je te donne quelque chose, tu vas me donner. Oui, c'est sûr qu'après, lorsqu'il nous donne son amour, sa grâce, son pardon, il veut aussi que nous puissions, après aussi, lui donner notre amour. Mais il n'exige pas de dire, tu as besoin de donner quelque chose pour que je puisse te donner mon pardon, ma vie. Rappelez-vous que Déborah, rappelez que dans le psaume 139, qu'elle est une créature merveilleuse. Et que justement, Jésus est venu revenir, redonner cette créature merveilleuse que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais le péché est venu comme engourdir cette image, est venu comme effacer cette image. Et Jésus veut nous redonner cette image belle, cette vie abondante que nous avons en lui. Deuxièmement, nous avons l'Église, le corps de Christ, qui est justement là pour nous aider à grandir dans cette promesse de bénédiction que Jésus veut nous donner. Le fait d'être enfant de Dieu permet de nous louer de notre Dieu pour le pardon des péchés, comme on l'a fait ce matin avec la louange, pour le remercier, pour louer, pour le salut de notre vie, d'être reconnaissant pour toutes les grâces et les bontés qu'il nous donne jour après jour. L'Église est là et à travers les nations, on a pu le voir, on peut le voir ce matin qu'on vient de différents endroits, même nos amis de Ghana ou de Liberia, ils ont pu venir dans une église, ils ont pu trouver la même chose qu'ils vivent chez eux, peut-être d'une façon différente, mais ils ont trouvé le Seigneur, ils ont pu trouver des hommes et des femmes qui louent le Seigneur, qui cherchent la volonté de Dieu. Là où nous allons, dans tous les pays, à travers le monde, l'Église est là pour démontrer cette vie abondante que nous pouvons avoir en lui. Et la troisième abondance, c'est justement à travers l'Église, nous avons des frères et sœurs dans la foi. Comme on est des êtres relationnels, on a besoin des uns des autres. L'Église n'est pas juste un rassemblement de personnes qui croient dans la même vérité, qui veulent chanter le louange à Dieu. L'Église est à tous les jours. L'Église est composée de personnes qui ont besoin des uns des autres, qui ont besoin d'avoir cette relation amicale, se connecter les uns les autres pour justement vivre la vérité de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui ont été créées pour avoir des relations avec d'autres personnes. Rappelez-vous que nous sommes justement ces êtres relationnels. Nous avons besoin de ce contact avec les autres. On a besoin de développer cette relation avec ceux qui sont comme nous, ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit en eux. Mais le fait d'être ensemble, c'est justement pour pouvoir s'encourager mutuellement. Et on le fait à travers le culte, mais on le fait aussi après le culte, lors du temps des fraternités. On a besoin de ces temps de se connecter. On a besoin durant la semaine aussi de vivre cette église. À travers les cellules de maison, à travers les temps de prière, à travers des formations, on a besoin de se connecter aussi. Ce n'est pas juste le dimanche. Des fois, j'entends souvent, malheureusement, des fois c'est ça, mais on vient du dimanche au culte, puis on dit au revoir pasteur, à dimanche prochain. C'est comme si on vient à l'église une fois par semaine, puis le reste de la semaine, on fait ce qu'on veut à notre façon. C'est pas ça l'église. L'église, c'est une connexion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à tous les jours, mais aussi avec nos frères et sœurs autour de nous. Voilà pourquoi on a besoin de pouvoir partager des temps avec eux, de prendre un café, de les inviter à manger, de faire une activité avec eux. Prochain dia, cette relation forte, soudée avec Dieu, avec Jésus, avec Saint-Esprit et avec les autres chrétiens, ça va rejaillir sur les autres personnes qui nous entourent pour que nous puissions développer des relations sincères et pleines d'amour de Dieu. Regardez, rappelez-vous ce que l'évêque nous a dit la semaine passée avec ce couple. Cette dame qui était justement une thérapeute qui allait dans différentes familles disait comment que lorsqu'elle arrivait dans des familles chrétiennes, elle ressentait qu'il y avait quelque chose de différent dans cette famille. Puis elle a dit à l'évêque, elle a dit, moi je veux goûter à ce que toi tu as, à ce que j'ai vu aussi. Elle a pu voir à travers d'autres personnes cet amour de Dieu. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'avoir des relations remplies d'amour, de respect, de bienveillance envers les autres personnes autour de nous. D'avoir plein d'humilité pour servir l'autre. Si nous avons réellement cette relation sincère avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, alors ça va rejaillir sur les autres. On ne pourra pas le garder pour nous. Les autres vont le voir. Peut-être qu'ils ne vont pas l'accepter. Peut-être qu'ils vont le rejeter. Ça, c'est leur choix à eux. Nous sommes libres. Mais ils vont le voir. Voilà l'abondance que le Seigneur veut nous donner dans la vie. D'avoir des relations aussi, sincères les uns envers les autres. De pouvoir être encouragé. De pouvoir, lorsqu'on vit des choses difficiles, de pouvoir demander la prière, de pouvoir demander l'aide dans les besoins que nous avons, physiques, matériels, spirituels, émotionnels. De savoir que nous avons des frères et sœurs sur qui que nous pouvons compter, qui pourront venir nous aider. Alors c'est ça, la vie abondante en Dieu. Ce ne sont pas des richesses matérielles. Ce n'est pas juste de construire une belle vie selon le monde. Ce n'est pas une vie remplie de belles choses comme le monde le propose. Mais c'est d'avoir une vie épanouie dans notre relation avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ, le Fils et le Saint-Esprit. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, est-ce que tu veux vivre cette vie abondante en Jésus? Est-ce que tu veux goûter à cette vie épanouie, même si tu peux peut-être vivre des temps difficiles, même si tu peux vivre des temps des épreuves, même des souffrances? Mais même dans ces temps difficiles, Dieu nous donne cette vie abondante. Le salut qu'il nous a donné, cette espérance qu'il y a entre nous, elle ne change pas. Même si nous sommes au fond du trou parce qu'on vit des choses difficiles, même si les gens nous condamnent, nous rejettent, cette relation avec Dieu reste la même. Alors courbons notre tête et prenons un temps ce matin pour réaliser que le Seigneur veut encore nous dire, est-ce que tu veux cette vie abondante? Non pas selon l'humain, non pas une vie toute rose où tous les problèmes sont réglés. Un jour, on va avoir cette vie abondante quand on sera avec Christ. Mais en attendant, il nous demande de fixer nos regards sur lui. Et j'aimerais, pendant qu'on reste dans cette attitude de prière, vous lire les versets suivants de Jean chapitre 10, versets 7 à 11, où Jésus va dire qu'il est ce berger. Verset 7, il dit, « Alors vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Il y a des personnes qui sont venues avant Jésus qui ont dit, oui, c'est moi le Messie, c'est moi qui va vous donner la vérité. Mais voici ce qu'il dit au verset 9, c'est moi, Jésus, qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, encore ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'il donne, sa vie pour chacun de nous. J'aimerais vous proposer, pendant qu'on va chanter un chant, qui nous parle du Saint-Esprit, comment que le Saint-Esprit veut encore rejaillir sur nous, comment qu'il veut encore travailler, nous donner, il veut qu'on puisse nous donner la toute la liberté dans notre être, d'être sanctifié, d'être baptisé par le Saint-Esprit. J'aimerais que, si des personnes veulent recevoir cette vie abondante, peut-être qu'ils ont perdu ce premier amour de Dieu, peut-être qu'ils sont trop pris par les soucis de ce monde. J'aimerais simplement que vous puissiez vous approcher et on va prier pour vous. Le Seigneur veut faire une œuvre en chacun de nous encore ce matin. Le Seigneur connaît votre cœur. Moi, je n'ai pas besoin de connaître ce qui est. Lui le sait. Mais il dit, ce matin, ne pars pas de cet endroit sans avoir cette certitude que tu as eu cette vie abondante. Que tu as besoin peut-être de courage, on va prier pour toi. Que tu as besoin peut-être de lâcher quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui te prend trop à cœur, des choses qui t'empêchent de vraiment vivre cette vie abondante en Dieu. Lâche-le devant le Seigneur. On va prier pour toi. Peut-être le Seigneur veut dire maintenant, je veux que tu aies cette relation aussi, de proximité avec tes frères et sœurs. On va prier pour que tu puisses connecter d'une façon nouvelle les uns avec les autres. Peut-être aussi que le Seigneur veut te dire ce matin, je t'envoie auprès des brebis qui sont égarées, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qui ont besoin de redécouvrir cet amour. Je t'envoie vers eux, on peut prier pour toi, pour que le Seigneur te donne cette force, donne cette paix, cette puissance pour pouvoir avancer avec toi, avec lui. Alors simplement, restons dans cet esprit de prière. Laissons l'Esprit de Dieu nous montrer, nous dire où est ton cœur. As-tu réellement cette vie abondante en Dieu? Peux-tu dire à chaque jour, oui, à chaque matin je me lève, j'ai cette joie dans le Seigneur. J'ai cette reconnaissance d'être avec le Seigneur. Je vis des belles choses, même si je souffre, même si je suis malade, même si peut-être j'ai des problèmes financiers, même si j'ai trop d'autres choses. Je vis cet avenir abondant en le Seigneur. Alors on va simplement mettre doucement ce chant. On va demander à la chorale de venir et simplement, sentez-vous à l'aise, de venir devant. On va prier pour que le Seigneur vous remplisse de cette vie abondante. Pour terminer, de simplement tourner vers une personne à gauche, à droite, ou vers une personne que Dieu vous montre, pour pouvoir la bénir, pour pouvoir l'encourager. Vous ne connaissez peut-être pas de sa vie, mais simplement dites les paroles que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. Nous voulons surtout aussi entourer nos amis du Ghana et d'autres pays qui sont là aussi ce matin. Ils commencent une nouvelle vie ici au Québec. Ils ont beaucoup de défis, qu'eux-mêmes aussi puissent découvrir aussi l'abondance en Jésus dans ce temps qu'ils sont ici. Alors, on peut aussi les entourer, ils parlent en anglais, si vous êtes à l'aise à parler en anglais, aller vers eux, prier pour eux, pour que le Seigneur puisse les bénir, les entourer. Et encourageons-nous les uns les autres. Alors, on dit vers une personne que le Seigneur met à cœur, tournons-nous vers une personne à gauche, à droite, et prions les uns pour les autres. Prions pour que cette vie abondante en Jésus soit une réalité pour chacun de nous. Alors, allons-y. Même si on ne connaît pas la personne, Dieu veut que nous puissions aussi nous bénir les uns les autres. Oui, Seigneur, tu es tellement grand. Tu nous as formés à ton image, Seigneur. Nous sommes cette créature merveilleuse. Tu désires que nous puissions vivre cette vie abondante en toi. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'encore ce matin, tu nous as démontré, à travers ta parole, à travers ton esprit, que tu veux nous faire découvrir, redécouvrir cette grâce d'être avec toi, de vivre cette vie abondante en toi, de vivre une joie, une paix que personne d'autre ne peut donner, de vivre cette espérance en toi, que malgré les souffrances, malgré les difficultés, que personne ne peut enlever. Alors on te remercie. On te remercie encore ce matin de nous rappeler que tu es la porte. Et c'est seulement vers toi que nous allons entrer. Nous allons trouver des verts pâturages, une vie abondante en toi. Alors merci. Merci, tu as prévu pour chacun de nous une vie qui est différente. Mais tu es personnel avec nous, tu es relationnel avec nous pour nous permettre de goûter à quelque chose de merveilleux que tu nous as donné. Alors on veut, Seigneur, librement encore, ce matin et dans ces prochains jours, de continuer d'ouvrir notre cœur à toi, pour que tu puisses continuer de nous travailler, de nous façonner, de nous montrer ce chemin pour qui nous amène dans ces verts pâturages. Nous allons puiser toutes nos forces, toute notre nourriture pour pouvoir grandir avec toi et accomplir ta volonté. Merci pour tout. Je te prie de bénir chaque personne ici présente, que ce soit ici en présentiel, sur Zoom, sur YouTube. Tu les connais, c'est toi qui les as façonnés. Tu désires pour que chacun puisse vivre cette vie. Alors continue, Seigneur, ton travail, Seigneur. Maintenant que nous allons bientôt nous quitter, continue ce travail de grâce, de bonté, de renouvellement, de rafraîchissement pour qu'ils puissent vivre cette vie en toi, Seigneur. Merci pour tout. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.